qu'une femme allaite, elle est critiquée, qu'elle n'allaite pas, elle est critiquée aussi.
Le lait étant, comme tout le monde le sait, le premier aliment de l'homme et même l'aliment exclusif du nouveau-né pendant plusieurs mois, évidemment que ça a donné une place particulière au lait.
Déjà, dès le Moyen-Âge, le sein de la femme, c'est un objet érotique en soi. Et donc là, on a une dualité déjà, ce sein nourricier ou ce sein érotique.
Il y a une méfiance, justifiée ou pas, mais en tout cas, il y a une méfiance par rapport au lait qui se traduit par la consommation de ce qu'on appelle abusivement des laits végétaux.
Le lait n'est pas un aliment comme les autres parce que c'est un aliment d'origine animale. Donc là, on a quand même quelque chose de très fort d'un point de vue déjà du rapport de l'humain au non-humain, de l'humain à son environnement.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Depuis toujours, le lait accompagne l'humanité. Maternel, il est au commencement de la vie. Animal, il porte en lui l'essor du monde agricole, tout autant que les traces d'une industrie agroalimentaire puissante. Entre charges symboliques et controverses, ruralité et mondialisation, liens intimes et considérations sociétales, le lait est un produit singulier. Maternel, en poudre, animal ou végétal, quel est ce liquide qui nous accueille lorsqu'on vient au monde et nous suit tout au long de la vie ? Dans ce troisième épisode de notre série sur le lait, penchons-nous sur le lait en poudre comme substitut au lait maternel. On l'appelle également lait artificiel, préparation infantile ou encore préparation pour nourrissons. C'est comme ça que l'on désigne tout aliment commercialisé ou présenté comme produit de remplacement partiel ou total du lait maternel, qu'il convienne ou non à cet usage. Et ce qui nous intéresse ici dans cet épisode, c'est de prendre le lait artificiel comme point de départ. Un point de départ pour comprendre, dans notre société, l'évolution de nos perceptions. Notre perception de l'idée de bonne alimentation, a fortiori lorsqu'il s'agit de celle des nourrissons que l'on accueille à l'aube de leur vie. Notre perception du progrès technique, de ce dont la science est capable pour améliorer notre qualité de vie. Notre perception aussi des produits industriels qui, au cours de l'histoire, ont tantôt connoté un gain de temps dans la vie quotidienne, tantôt les risques sanitaires et le manque d'équilibre nutritionnel. C'est tout cela qu'un produit comme le lait artificiel raconte. Pour certaines, ce substitut est le symbole de la liberté. Nous verrons plus tard comme il est effectivement indissociable de l'épanouissement professionnel des femmes et de l'essor de la classe moyenne. Pour d'autres, en revanche, le lait artificiel ne peut pas connoter l'empouvoirment des femmes, autrement dit la capacité qu'elles ont à s'autonomiser, puisqu'il serait au contraire le symbole marchand de campagnes marketing menées par une industrie masculine, des hommes qui ont inventé le lait en poudre et auraient ensuite tout fait pour décrédibiliser le lait maternel, mais aussi le symbole d'un corps médical majoritairement masculin et très ignorant de l'allaitement. Alors, notre objectif aujourd'hui sera de comprendre de quoi le lait en poudre est le nom, mais aussi de rappeler qu'il y a autant d'expériences de la parentalité que de parents. Encore une fois, on peut donc vouloir allaiter comme ne pas vouloir allaiter, et l'objet du précédent épisode, l'épisode numéro 2 de cette série, a justement été de vous donner à entendre plusieurs témoignages de mères, celle qui se dit bouleversée de s'être découverte capable de produire de la nourriture, ou encore celle qui n'a jamais envisagé d'allaiter parce que cette idée animale selon elle lui déplaisait. On peut, enfin, vouloir allaiter mais ne pas y parvenir. C'est le cas de Mélanie, une mère qui a d'abord souhaité allaiter avant de se rendre compte qu'elle présentait une hypolactation, un phénomène rare d'incapacité physiologique à produire suffisamment de lait. Mélanie raconte qu'en 6 jours, elle arrivait à peine à obtenir 120 ml. Pendant 3 mois, elle dit s'être entêtée à tirer son lait tant bien que mal, jusqu'au jour où elle a finalement ouvert les yeux sur ses priorités.
Mon plus grand soulagement, c'est quand en fait ma raison a pris le dessus sur mon cœur de maman et je me suis dit « Faut que j'arrête ce combat, ça sert à rien, je veux juste profiter pleinement de mon fils et arrêter d'être collée à cette machine toutes les 3 heures. » Parce que sur 24 heures, bon, la nuit, je le faisais pas, mais la journée, en fait, je passais plus de temps avec cette machine à aller laver les biberons, etc., qu'être avec mon fils. Et une fois que j'ai compris ça, que j'ai ouvert les yeux, mais voilà, en fait, j'aurais aimé ouvrir les yeux plus rapidement. « Ok, l'allaitement, c'est bien, mais il n'y a pas que l'allaitement. Les laits infantiles sont très bien maintenant et que je pense que le plus important, c'est d'être auprès de son bébé et pas auprès d'une machine. » On l'a attendu pendant 9 mois. Et en fait, on est focus sur cette machine toutes ces 3 heures parce qu'on veut du lait pour son enfant alors que lui ne demande mais strictement rien. Et en fait, c'est ça, ça serait de penser plus à son enfant, profiter de son enfant, lâcher la pression avec ses stimulations et ce lait qui ne vient pas. S'il vient pas, c'est pas grave, il faut passer à autre chose. Dans tous les cas, il est nourri, il prend du poids, il est en bonne santé et c'est le principal.
Pour Mélanie, renoncer au tire-lait et se tourner vers les substituts au lait maternel lui a permis de mieux profiter des premiers mois de la vie de son enfant. Chaque personne qui met au monde un enfant a la possibilité de réfléchir à son projet de naissance, autrement dit, ses souhaits et objectifs entourant les premiers moments de la vie du bébé, un document que l'on peut remettre à l'équipe médicale. Allaiter ou donner le biberon, le choix de l'alimentation du nourrisson leur appartient. Mais celui-ci relève d'une pratique socialement différenciée, pour reprendre l'expression utilisée par Séverine Gaujard. En 1998, cette sociologue de l'alimentation a conduit une enquête menée auprès de 1800 mères du Val-de-Marne, enquête dont on peut lire les résultats dans la revue des politiques sociales et familiales. Or, il apparaît à l'époque que les femmes cadres allaitent davantage que les femmes de la classe ouvrière. La chercheuse en psychologie Irène Caponi confirme.
Le taux d'allaitement augmente au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'échelle sociale. Par exemple, les cadres supérieurs sont un peu plus de 70% à allaiter, alors que les ouvrières ne sont que 50% à allaiter à la naissance. Je parle à la naissance et je ne distingue pas le mix de l'exclusif. Et effectivement, c'est un phénomène qui se reproduit depuis un moment, le fait que les catégories sociales basses recourent plus au biberon. Et là, il y a différents facteurs qui entrent en jeu, différentes motivations. Il y en a une, par exemple, par rapport aux femmes ouvrières. Elles ont un métier qui est peu valorisé dans notre société. Il n'y a qu'à voir combien elles sont payées. Elles font, en général, plus de travail domestique que les hommes. Et du coup, je pense que cette absence de valorisation, le fait d'être un petit peu confinée dans une sphère privée, fait que ces femmes-là, eh bien, se libèrent, si vous voulez, un petit peu de ce carcan-là en choisissant le biberon pour justement pas être identifiées que à la femme qui s'occupe du domicile, qui est enfermée en fait dans des fonctions maternelles ou ménagères.
Comme l'écrivent les chercheurs Marc-Olivier Desplaudes et Tania Navarro-Rodriguez, les résultats de différentes enquêtes montrent que ce sont toujours les femmes des classes supérieures qui sont les plus soucieuses de se conformer aux normes officielles en matière d'allaitement. Mais au cours de l'histoire, la réputation de l'allaitement a pu souvent évoluer. Dans son essai intitulé « Le conflit », publié en 2010 et dont on a pu parler dans le précédent épisode, la philosophe Elisabeth Badinter voyait en l'allaitement un retour en force d'une norme maternelle qu'elle jugeait très contraignante et défavorable aux femmes. Mais si la réputation de l'allaitement a pu évoluer au cours de l'histoire, notons que c'est aussi le cas des substituts au lait maternel. Pour en savoir plus, j'ai discuté avec Sophie Thiron.
Je suis doctorante en sociologie de l'alimentation et sociologie des émotions au CERTOP, qui est un laboratoire toulousain du CNRS, de l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès et de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Et la recherche dont on va discuter aujourd'hui a été effectuée en collaboration avec l'anthropologue Audrey Soula.
Sophie Thiron rappelle que le principe de substitut au lait maternel n'est pas nouveau. Durant l'Antiquité, quand une mère ne pouvait ou ne voulait pas allaiter, c'était vers les nourrices qu'on se tournait, ces femmes payées à donner le sein à d'autres nourrissons que les leurs. Dans la même logique, le lait animal aussi a pu être utilisé comme substitut. Ce qui est en revanche plus récent à l'échelle de l'histoire, c'est l'invention des formes commerciales des substituts au lait maternel. Et pour cela, il a fallu attendre le 19e siècle.
C'est le siècle de l'industrialisation, mais c'est aussi le siècle de la montée de l'hygiénisme en France, notamment avec la découverte de la pasteurisation en 1865, et donc de tout ce qu'on appelle à l'époque les microbes. Et donc en fait, les mères sont de plus en plus responsabilisées sur le devoir de se maintenir en bonne santé, et de plus en plus culpabilisées sur le recours à des nourrices ou au lait animal, parce qu'en fait, les nourrices, ça présente le problème du risque de transmission de maladies, et le lait animal de lait gâté ou frelaté. Et les nourrices posaient aussi beaucoup de questions éthiques puisqu'elles éloignaient les parents et les enfants. Souvent, les enfants étaient emmenés à la campagne. Et en plus, il y avait la question du bébé de la nourrice qui, lui, devait partager le sein de sa mère. Et il faut aussi avoir bien en tête qu'au 19e siècle, la mortalité infantile est très élevée. En moyenne, jusqu'au début du 20e siècle, il y a un bébé sur 4 qui n'atteint pas 1 an, donc 25% de mortalité infantile avant 1 an. Et la qualité de l'alimentation est l'une des causes du fort taux de mortalité infantile parce que les crises diarrhéiques engendrées par tous les soucis d'alimentation étaient souvent fatales pour les nouveau-nés. Donc finalement, la découverte de la pasteurisation en 1865 va vraiment marquer un tournant puisque sur le plan hygiénique, le lait animal devient moins risqué et va donc se présenter comme une alternative acceptable ou en tout cas vivable pour les femmes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas allaiter. Et donc c'est à partir de ce moment-là que les premières préparations commerciales vont pouvoir être mises au point.
C'est dans ce contexte que vont se déployer deux acteurs principaux de l'industrie des substituts au lait maternel. Deux noms que vous allez tout de suite reconnaître, tant ils sont encore aujourd'hui des géants de l'agroalimentaire.
À peu près simultanément en Allemagne, par le baron von Liebig, donc Liebig qu'on connaît aujourd'hui pour d'autres raisons, et en Suisse, du coup, par Henri Nestlé, dont on connaît très bien le nom, qui va commercialiser sa première préparation en 1866.
Mais au juste, de quoi étaient composés exactement ces substituts au lait maternel ?
La formule de Nestlé, qui est un chimiste suisse à la base, donc il met sa décoction avec de la farine lactée en poudre, qui va devoir être mélangée avec de l'eau. Le lait, il est concentré avec une pompe pneumatique à basse température. En fait, Henri Nestlé, il est chimiste, donc il connaît bien tous ces processus et ça va donc ressembler en fait à de la farine qu'on va devoir mélanger à de l'eau. Et la formule de von Liebig, le chercheur allemand qui met au point lui aussi à peu près en même temps un produit à vendre pour les nourrissons, c'est de la farine de blé mélangée à du lait de vache, et de la farine de malt et un peu de bicarbonate de potassium. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, dans les discours, ces formules sont vendues comme à consommer par les enfants après l'allaitement, mais en réalité, les mères l'utilisent dès la naissance.
Pour se frayer un chemin jusque dans les foyers de l'époque, les industriels ont pu compter sur un état d'esprit ambiant qui valorisait énormément l'idée de médicalisation, mais aussi sur un nouveau paradigme professionnel pour les femmes. C'est dans ce contexte que les industriels ont pu travailler à construire une confiance en leurs produits.
Il y a une grande confiance qui a été construite. Et là, c'est vraiment très intéressant de regarder à la fois les évolutions sociétales, donc qu'est-ce qui a poussé au niveau de l'environnement, dans les changements et les modes de vie, les mères à adopter ces produits, mais aussi comment la confiance s'est construite en ces produits qui étaient inconnus au début. Pour voir ça, le nourrissage est de plus en plus décrié et les femmes de l'époque, surtout des classes populaires, sont très sollicitées par des travaux physiques en dehors du foyer, donc majoritairement en zone rurale encore, même si c'est le début de l'urbanisation. Un petit peu plus tard, elles sont très occupées par leurs nouveaux emplois, elles sont institutrices, elles sont ouvrières dans les usines, elles sont employées. Et donc, pour toutes ces raisons, trouver des alternatives à l'allaitement maternel est très intéressant pour elles. Et donc, d'autre part, il y a une forme de confiance qui est construite par les vendeurs de ces préparations. Par exemple, Nestlé, lui, va insister sur la qualité du lait dans les Alpes suisses en construisant tout un imaginaire autour de la vache dans son pâturage. Et comme il a le titre de chimiste, il bénéficie aussi d'une légitimité scientifique. C'est-à-dire que lui, il va aussi s'appuyer sur son réseau de médecins, d'académiciens qui vont expérimenter ces préparations pour nourrissons sur leur patientèle et témoigner de l'intérêt que ça a pour faire baisser la mortalité infantile. Donc tous ces discours, le titre de chimiste de Henri Nestlé et en fait la construction d'une légitimité scientifique, ça va permettre de construire de la confiance dans le produit. Et en parallèle de ça, il faut aussi prendre en compte le fait que c'est une époque où la confiance en la science et en la médecine est de plus en plus importante. C'est une époque où on croit beaucoup en ce qu'on appelle le progrès. Si on va sur un plan un petit peu plus peut-être philosophique, la nature est considérée comme étant imparfaite par les gens du 19e siècle et les connaissances médicales et scientifiques permettent un peu de pallier à ces imperfections de la nature, de contrôler la nature ou en tout cas de contrôler les éléments qui peuvent être néfastes. L'alimentation du nourrisson va suivre ce mouvement-là. Et le corps médical, les médecins, vont de plus en plus demander aux mères de se tourner systématiquement vers eux pour avoir des conseils adaptés, pour maîtriser justement ces incertitudes de l'alimentation et de l'alimentation du nourrisson. Et donc en fait, les médecins vont prendre le pouvoir finalement sur l'allaitement face aux mères, aux mamans, et le pouvoir sur l'alimentation infantile des médecins va croître pendant toute cette période de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, au même moment où la confiance en elles des mères va s'amenuiser, puisqu'on fait confiance de plus en plus en la médecine. Finalement, le savoir qui se transmettait de génération en génération va diminuer un petit peu.
Les années 50 marquent un tournant dans la vision de l'alimentation des nourrissons. Le lait en poudre est synonyme alors de progrès et de modernité.
C'est l'apogée de cette manière de voir l'alimentation infantile. De nombreuses femmes travaillent en France comme aux États-Unis. Et donc le recours au lait maternel est de mieux en mieux accepté socialement, mais c'est surtout aussi l'image de la modernité. Le milieu du XXe siècle, on va avoir beaucoup cette idée de progrès et valoriser aussi tout ce qui va être scientifique, technologique. Et donc un foyer moderne, je mets des guillemets à moderne, hein, mais comprend un bébé qui va être nourri au biberon. Et la bonne mère, finalement, c'est la maman qui se repose sur la science, sur les avancées scientifiques, les avancées technologiques. Donc la bonne alimentation du nourrisson, celle qui est valorisée à l'époque, ça devient en effet ce lait maternisé et ses préparations commercialisées. L'allaitement, c'est vu comme, je parle de manière majoritaire, mais c'est vu comme quelque chose d'un peu daté. C'est un peu quelque chose qui est plus trop à la mode au milieu du XXe siècle.
Mais cet âge d'or des substituts au lait maternel va finir par s'étioler. Dès le début du XXe siècle, il suscite la méfiance dans certains milieux.
Il y a quand même, dès le début du XXe siècle, des mouvements, notamment aux États-Unis, de soutien au lait maternel. Par exemple, à Chicago, il y avait des grandes affiches placardées avec écrit « Don't kill your baby », donc « Ne tuez pas votre enfant », sous-entendu le fait que les laits maternisés étaient mortels pour les enfants. Donc, dès cette époque-là, on a déjà des campagnes de santé publique, dès 1910, en fait, qui sont mises en place. Mais les vraies critiques de l'alimentation commerciale pour nourrissons, elle voit vraiment le jour et elle se renforce lors de la seconde moitié du XXe siècle, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Ça commence aux États-Unis. Donc c'est une époque où les femmes sont vraiment poussées assez fortement à accoucher en milieu hospitalier. En milieu hospitalier, elles ont des conseils sur l'allaitement, mais elles sont pas toujours accompagnées jusqu'au bout. Et surtout, elles sont pas forcément en famille. Et en fait, devant le constat qu'il y a un fort manque d'informations et de conseils sur l'allaitement et aussi de solidarité entre les femmes qui s'est un peu dénouée au milieu du XXe siècle, deux jeunes mères aux États-Unis ont l'idée de créer des cercles de parole et d'échanges, de pratiques pour se conseiller et se soutenir sur l'allaitement. Et finalement, ces mouvements pro-allaitement maternel connaissent un succès vraiment retentissant dans les années 60 et 70.
En toile de fond, des données scientifiques montrant les bienfaits de l'allaitement vont contribuer à changer la réputation des substituts. Mais ce qui va véritablement marquer un avant-après, c'est ce qu'on peut appeler le scandale Nestlé des années 73-74. Alors, recontextualisons un peu. Nous sommes à ce moment-là au début des années 70 et les substituts au lait maternel sont présents sur tous les continents. Mais la sortie de deux articles signés par des ONG vont quelque peu contribuer à mettre en branle cette hégémonie.
Qui va vraiment marquer le changement, c'est deux articles qui sont publiés dans The New Internationalist puis dans The Guardian par les ONG Oxfam, Christian Aid and the Third World, qui vont mettre en cause directement les substituts au lait maternel, notamment dans les pays appelés à l'époque les pays du tiers-monde. Ils vont être accusés de tuer en fait des bébés par les aliments qu'ils proposent. Ce qui est dénoncé, c'est le fait que ce soit des produits de mauvaise qualité, mais surtout que les étiquettes sont pas lisibles et les consignes sont pas du tout appropriées au pays en question, puisque les populations n'ont pas toujours un taux d'alphabétisation très élevé, elles peuvent pas lire les consignes. L'eau de ces pays-là n'est pas toujours potable. On accuse aussi les firmes de déguiser leurs vendeuses en infirmières, etc. Et que tout ça est très néfaste pour le taux de mortalité infantile qui reste assez élevé dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud à l'époque. Et donc Nestlé est directement accusé par les journalistes de tuer des bébés. Donc c'est Nestlé qui est mis en première page parce que c'est à l'époque la firme qui vend le plus de lait maternisé dans ces pays-là. Mais en réalité, c'est toutes les multinationales et tout le secteur qui est mis en cause. Et finalement, ça va faire scandale. Il va y avoir un gros boycott des produits Nestlé à la fin des années 70 aux États-Unis qui va s'étendre à l'Europe au début des années 80.
Ce bad buzz, comme on dirait aujourd'hui, a considérablement remué les esprits de l'époque. Un congrès mondial est alors organisé pour se pencher sur le sujet.
Tout ce scandale-là, ces journaux et ces ONG qui dénoncent l'impact sur la mortalité infantile, ça va conduire l'OMS et l'UNICEF à organiser un gros congrès en 1979 qui va mener à ce qui est encore en vigueur aujourd'hui, le Code international de marketing sur les substituts à l'allaitement maternel. Et c'est un code donc qui interdit les publicités de produits vendant un remplacement partiel ou total de l'allaitement maternel. Dans les années 70, les substituts au lait maternel sont critiqués du point de vue nutritionnel pour le fait qu'ils n'aient pas la même composition et qu'ils permettent pas les mêmes apports aux nourrissons. Du point de vue sanitaire, pour les problèmes de santé qu'ils peuvent engendrer, notamment quand il y a des questions d'eau potable. Mais aussi, aujourd'hui, on peut les accuser d'être source dans certaines publications. Les chercheurs expliquent qu'ils peuvent être liés à du diabète, à de l'obésité, mais aussi à des faiblesses immunitaires. Il y a des critiques éthiques du fait de la place qu'ils prennent entre la mère et le nourrisson. et des critiques sur le fait que les substituts au lait maternel font perdre leur confiance en elles aux mères et en leur capacité d'allaitement.
En effet, vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a pas de publicité sur les laits premier âge, c'est interdit. Il en va de même pour les promotions genre 2 achetés, 1 gratuit, les bons de réduction, les cadeaux, les échantillons gratuits. Tout cela est interdit par des textes réglementaires qui veulent prévenir le fait de décourager l'allaitement maternel. Aujourd'hui, la plupart des études scientifiques insistent sur les bienfaits du lait maternel. Mais Sophie Thiron propose d'apporter quelques nuances aux discours qui parfois ont tendance à critiquer un peu vite les substituts au lait maternel.
Ces critiques viennent aussi renforcer la pression sociale qui pèse autour de l'allaitement, c'est-à-dire qu'à force de critiquer les substituts au lait maternel, aujourd'hui la bonne mère, c'est celle qui allaite au sein. Il y a une très forte pression sur l'allaitement maternel et ça peut vraiment être source aussi de souffrance pour certaines femmes. On a de nombreux cas de femmes qui sont profondément affectées et blessées parce qu'elles ne collent pas à l'imaginaire de la mère parfaite qu'elles s'étaient faite, qui est de allaiter au sein. Et donc, on est un peu aujourd'hui dans cet antagonisme entre la pression très forte qui va peser sur les femmes pour allaiter, pour coller à cette image de mère parfaite. Et en même temps, d'un autre côté, du point de vue nutritionnel et sanitaire, on a pas mal de recherches quand même qui montrent l'intérêt de l'allaitement maternel à très long terme.
Comme le souligne Sophie Thiron, la critique de ces substituts peut devenir une pression sociale supplémentaire pour les parents. Il y a donc sans doute un équilibre à trouver entre le fait de renseigner sur l'intérêt de l'allaitement d'un point de vue nutritionnel et sanitaire, mais aussi la liberté de chaque personne à disposer de son corps et à faire les choix de parentalité qui lui conviennent, en fonction de ses valeurs, son bien-être physique et psychologique, ainsi que son mode de vie. Victoria, par exemple, est une mère qui n'a pas allaité une seule fois, par envie, dès le départ, de ne surtout pas accumuler la fatigue et donc de mutualiser toutes les tâches avec son mari. Elle raconte que la pression sociale est telle qu'il lui arrivait parfois de mentir en société en disant qu'elle avait bien allaité un petit peu au début de sa vie de jeune maman.
Donc moi, j'attendais mon premier enfant pour le mois de mai. J'avais déjà été enceinte, ce projet de pas forcément allaiter. Déjà, je pense par envie physique, en me disant que chose qui faisait que j'avais pas forcément cette envie-là, le rapport au sein, etc. J'étais pas forcément hyper à l'aise. Et aussi, j'avais envie de me dire que j'allais pouvoir partager, si je donnais le biberon, ce plaisir-là avec mon mari. Notamment parce que je savais que les premières nuits seraient difficiles et que peut-être pour une maman de tout le temps allaiter, ça engendrait plus de fatigue. Et moi, étant quelqu'un qui aime pas tellement être fatiguée, je me disais qu'en partageant cette tâche-là, peut-être que du coup, il prendrait plus facilement le relais et que moi, je pourrais plus me reposer. Et en accouchant, c'est vrai que ça a vite conforté un peu mon idée de pas allaiter en me disant que la fatigue, elle était là, quoi. Et ce qui était d'autant plus intéressant, c'est que pendant mes cours de maternité, il y en a 6 ou 7 qui sont pris en charge par la Sécu. On te parle, il y a un cours que sur l'allaitement. Et moi, j'étais assez étonnée parce que je me disais, mais en fait, si t'as pas comme projet d'allaiter, t'as aucun cours sur le biberon, le lait artificiel, toutes ces choses-là. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais après, je me suis rendu compte que c'était pas parce qu'on voulait pas parler de lait en poudre ou de biberon, c'était surtout parce qu'en fait, les autorités françaises et notamment même mondiales d'ailleurs, l'OMS, recommandent jusqu'aux 6 mois de l'enfant un allaitement exclusif. Et quand toi, en France, tu décides en fait de pas allaiter ton enfant, on te dit « mais attends, c'est bizarre, mais est-ce que c'est parce que tu as une pathologie qui fait que tu peux pas ? C'est la meilleure façon de nourrir ton enfant ?» Donc moi, je prône un peu ce côté de en fait, il n'y a pas que l'allaitement, il y a d'autres choses à côté. Les enfants se portent tous tant bien. Il y a des études qui ont montré que si tu compares un groupe d'enfants A qui a été allaité avec un groupe d'enfants B qui n'a pas été allaité, les enfants B ne vont pas forcément développer plus de maladies plus tard, plus d'obésité ou plus de pathologies parce qu'ils n'ont pas été allaités. Après, oui, c'est vrai, il y a des bienfaits dans l'allaitement, mais je pense que dans lait artificiel, surtout aujourd'hui avec le renforcement des contrôles, les laits en poudre, ils sont safe, ils sont très couramment contrôlés. Et même si effectivement, il y a un peu ce business du lait en poudre avec des tonnes et des tonnes de marques, des tonnes de choses à l'intérieur, je pense qu'ils ont tout un cahier des charges assez standard. Et même si les marques divergent, le bio, le pas bio, le français, le pas français, etc., la composante principale est quand même la même. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que ce serait moins bien. Donc, à la maternité, moi, j'ai tout de suite dit que j'avais envie de pas allaiter et que je voulais avoir ce qu'on appelle à la maternité, du coup, c'est des nourettes. En fait, c'est des biberons qui sont déjà prêts, le lait et la poudre sont déjà mélangés. Donc, ça donne un aspect comme du lait qu'on pourrait boire, nous, adultes. Et tu n'as plus qu'à le mettre avec la tétine et c'est très facile. Et moi, mon fils l'a très vite pris et ça se passe hyper bien. Il n'a eu aucune colique, comme on parle souvent de colique du nourrisson, que d'ailleurs les bébés allaités peuvent avoir. Moi, mon fils n'en a jamais eu. Mais en tout cas, pour moi, ce qui était le plus important, c'est que ça convienne à mon enfant. Et c'est le cas. Il a toujours hyper bien digéré. Il n'a jamais rejeté. Il n'a jamais eu de problème de transit ou de choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu confiance aussi, même si encore aujourd'hui, on voit des fois passer aux informations des laits qui sont rappelés. C'est sûr que ça fait flipper. On se dit, mais attends, mais qu'est-ce que je donne à mon fils, etc. Mais ça fait des années qu'il y a ça qui est mis en place. Tout va très, très bien. Et puis surtout, je pense que quand un enfant est adulte, personne ne lui pose la question. Alors, toi, tu as été allaité ou toi, tu as eu du lait en poudre ou comment ça s'est passé? Enfin, je pense que le plus important, c'est avoir un enfant qui est aimé par ses parents, qui s'épanouit, qui sourit, qui est bien, qui a pas de problème de santé. Et peu importe le type d'alimentation qu'il a eu étant bébé ou pas, quoi. Et moi, mais plein de fois, j'ai dit aux gens, ouais, j'ai allaité un mois. En fait, on ne devrait pas en arriver là, quoi. On devrait être tout aussi fier de nourrir son enfant, peu importe la façon dont on le nourrit, et on ne devrait pas avoir peur du jugement. Et aujourd'hui, je trouve que même si effectivement les femmes se battent pour pouvoir allaiter partout, ben, les femmes qui n'allaitent pas devraient aussi se battre pour être fières et montrer que ben, une femme qui n'allaite pas n'est pas une mauvaise mère, quoi.
En fait, pour Sophie Thiron, le cas du lait en poudre dit beaucoup de l'histoire de la critique des produits industriels. En filigrane, c'est notre rapport au progrès, à la science, mais aussi à la nature qui est en jeu. Cette nature qu'on a eu tendance longtemps à vouloir maîtriser car on l'a un jour trouvée imparfaite et qu'on a désormais, dans notre société actuelle, plutôt envie de laisser faire.
De manière générale, les changements alimentaires sont à mettre en perspective des évolutions sociétales. On a vu que le rapport aux substituts au lait maternel évolue aussi avec la société, avec le travail des femmes, avec la manière dont on va regarder le progrès, la technologie, la science. Concernant les pratiques d'alimentation infantile, on voit qu'elles évoluent conjointement à l'émergence de la classe moyenne, au travail des femmes, à l'urbanisation. Et aujourd'hui, on voit que le retour à l'allaitement, finalement, il est aussi à mettre en parallèle d'une montée plus générale de la méfiance envers l'alimentation industrielle. Et c'est une méfiance qui est vraie envers l'industrie, mais c'est aussi vrai envers les scientifiques et envers les politiques. C'est une méfiance qui va se généraliser envers toutes les grandes institutions, notamment du fait des nombreuses crises sanitaires et des scandales alimentaires que l'on connaît depuis la fin du XXe siècle. Cette perte de confiance finalement des gens dans l'alimentation et dans l'industrie, elle est étudiée depuis la fin du XXe siècle. Le sociologue Claude Fischler parle d'OCNI, Océanie, donc objet comestible non identifié. Il fait un petit parallèle avec l'OVNI, vous l'aurez compris, pour désigner le fait que l'allongement de la chaîne entre le producteur et le mangeur ne va plus permettre aux gens d'identifier l'aliment, de comprendre d'où il vient et d'y associer une symbolique. Et cette perte de lien, finalement, et aussi de sens, va être source d'incertitude pour le mangeur et du coup d'inquiétude, et donc de méfiance. Concernant les critiques de l'alimentation industrielle et de la construction de cette méfiance aussi envers l'alimentation industrielle, si on prend une perspective un petit peu historique, les premières critiques émergent finalement dès l'après-Seconde Guerre mondiale, donc au moment de l'industrialisation de l'alimentation en France, hein, la Révolution verte, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Les premières critiques émergent aussi à ce moment-là, mais à l'époque, c'est plutôt dans une idéologie très conservatrice et de droite, où ça va être des médecins et des cercles des milieux urbains parisiens qui vont critiquer l'industrialisation parce que c'est pas dans la tradition telle que eux l'entendent. Mais par contre, ça change totalement d'épaule à partir des années 60. On a une vraie rupture puisque la logique industrielle avait alors bénéficié jusque-là d'une très grande légitimité. Elle est remise en cause. Le capitalisme, la productivité sont contestés en mai 68. Et donc l'agrobiologie et de nouveaux régimes alimentaires vont aussi pouvoir voir le jour et être valorisés. Et finalement, ce qui aujourd'hui en tout cas mène vraiment à une critique généralisée de l'alimentation industrielle, c'est notamment la crise de la vache folle qui a donc lieu au milieu des années 90, qui va vraiment venir renforcer cette méfiance des gens envers l'industrie agroalimentaire, mais aussi envers la science et envers les instances chargées de régulation et de contrôle. Donc finalement, ce que nous montre l'histoire de la critique des aliments industriels, c'est que le rapport à l'industrialisation et la manière dont on a perçu ces aliments dits industriels va évoluer avec les changements sociétaux, mais plus largement qu'elle évolue avec notre rapport au progrès, notre rapport à la science, notre rapport à la technologie.
Vécu par certaines personnes comme une libération, une meilleure répartition des tâches, un soulagement ou encore un sevrage réussi, le recours aux substituts au lait maternel, qu'il soit à base de lait de vache ou de lait de soja, est aujourd'hui répandu. En fin de compte, que l'alimentation des nourrissons se fasse sur le mode du biberon avec lait artificiel ou sur le mode de l'allaitement exclusif ou mixte, cette décision doit toujours revenir entièrement aux parents. Et c'est bien cette liberté de choisir qui doit être défendue aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice de production Marion Gourdon.